Bonjour, le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
La culture du royaume, est-ce qu'on peut dire comment la culture du royaume de Dieu? Aujourd'hui, on va se concentrer sur un point très important. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Vous avez vu que sur le sujet de la culture du royaume, j'essaie de toucher plusieurs points qui peuvent avoir un impact sur notre culture, c'est-à-dire notre manière de penser, notre manière de notre mentalité. Et aujourd'hui, le sujet du jour est intitulé « L'impact de la culture du royaume de Dieu dans nos relations avec les autres ». Ou encore l'impact de nos relations, tout simplement, dans notre vie. L'impact de nos relations dans le royaume. Et qui dit relation dit fréquentation. Est-ce qu'on peut dire avec moi les fréquentations? Oui. La semaine dernière, on a parlé de l'importance de penser comme Dieu pense pour changer notre monde. Notre manière de penser, les pensées que nous cultivons, tout ce qui peut affecter nos pensées. Notre système de pensée est le principal champ de bataille, on a dit que s'il y a bien une troisième guerre mondiale qui se déroule en ce moment dans notre monde, c'est la guerre de l'information. Si tu contrôles les pensées de quelqu'un, tu le contrôles. Et tout part des pensées, les actions que nous posons, les résultats que nous obtenons, les projets que nous avons, tout vient des pensées. C'est pour cela que Salomon nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, parce que du cœur viennent les pensées. » Si tes pensées, c'est-à-dire si ton cœur est pollué, tu ne peux plus penser correctement. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à ce que l'on laisse rentrer dans notre cœur. Donc, c'est très important de maîtriser ses pensées, de faire attention à ses pensées. Et s'il y a aussi un autre point dans le cadre de la culture du royaume, un autre point dans la vie, sur lequel Dieu nous interpelle et sur lequel Dieu veut que l'on veille tout particulièrement, ce sont nos fréquentations. Est-ce qu'on peut dire avec moi nos fréquentations? Nos fréquentations. On va ouvrir nos billes pour ceux qui en ont. Dans le livre de Amos, il y a une parole que Dieu dit dans Amos 3 au verset 3. Une parole que beaucoup on a entendue, mais souvent que l'on néglige. C'est Dieu qui parle au travers du prophète. Et Dieu dit au travers du prophète Amos, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» La réponse est « Non. » Et une autre version de la Bible, français courant, dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» La réponse est « Non. » Peut-être que toi, tu vas répondre « Oui. » Ou quelqu'un nous va dire « Je ne sais pas. » Eh bien, on va le savoir. Les relations que nous entretenons dans notre vie occupent une place de premier plan dans notre vie. Car les relations que nous avons avec les gens nous influencent positivement ou négativement. Les relations sont très importantes. Est-ce qu'on peut dire avec moi les relations? Et les fréquentations que tu as dans ta vie, les fréquentations que tu as, les amis, la famille, les proches, les collègues de travail, tous ces gens qui t'influencent de manière directe ou indirecte sont des personnes qui peuvent ou qui vont déterminer ta réussite ou ton échec dans la vie. Est-ce qu'on peut dire avec moi les fréquentations? Combien de personnes voyons-nous être détruites simplement à cause des mauvaises relations? Et Dieu accorde une attention toute particulière aux personnes avec qui tu choisis de marcher. S'il y a bien une question très importante que Dieu te pose concernant ta destinée, c'est avec qui marches-tu? Quelqu'un un jour a dit, montre-moi les personnes que tu fréquentes et je te montrerai où tu vas dans la vie. Si tu marches avec les bonnes personnes, elles vont t'influencer positivement. Si tu marches avec de mauvaises personnes, elles vont t'influencer négativement. Mais le plus souvent, particulièrement quand on manque de maturité, on n'arrive pas à discerner lorsque des personnes ont une mauvaise influence sur nous. Ça nous est déjà tous arrivé de fréquenter quelqu'un et d'avoir nos proches ou des amis à côté qui nous disent « La personne là, c'est pas bon, ne marche pas avec elle. » Mais il n'y a rien. Qu'est-ce qu'elle me fait? Il n'y a rien avec cette personne. Cette personne n'a pas une bonne influence sur toi. Regarde comment elle déteint sur ton caractère. Je t'assure, pourquoi Dieu insiste et pourquoi Dieu accorde une attention particulière aux personnes que tu fréquentes, c'est parce que tout simplement, quand tu décides de marcher avec quelqu'un ou quand tu décides de fréquenter quelqu'un, que tu le veuilles ou non, cette personne va déteindre sur toi. C'est pour cela que c'est très important de choisir les personnes avec qui tu décides de marcher, les personnes que tu décides de fréquenter. Et Dieu le sait. Et c'est aussi pour cela que lorsque tu commences à fréquenter quelqu'un ou quand tu commences à marcher avec quelqu'un qui a une mauvaise influence sur toi, Dieu va toujours te le dire. Dieu va toujours t'interpeller. Est-ce qu'on peut dire avec moi les fréquentations? Et cette parole, elle est donnée au prophète Amos. Et quand on prend le temps d'étudier la vie de ces gens d'un point de vue théologique, on se rend compte que ces gens prophétisaient dans un contexte. Dans un contexte. Le prophète Amos, son ministère était très lié au ministère du prophète Osée. Le prophète Osée, quand vous lisez le livre du prophète Osée, toute sa prophétie est ciblée par rapport à l'infidélité que le peuple juif avait par rapport à Dieu. Le peuple juif avait décidé d'aller adorer d'autres dieux. Et le prophète Osée avait prophétisé sur leur infidélité en leur demandant de se repentir de leurs actions, parce que le peuple s'était détourné de la voie de Dieu et avait créé des statues, etc., et allait adorer sur les hauts lieux. Alors que le prophète Amos, lui, sa prophétie est beaucoup plus liée à ce qu'on appelle l'équité ou bien la justice. L'équité et la justice. Qu'est-ce qu'on appelle l'équité? L'équité, c'est l'impartialité. Le fait de ne pas choisir, de ne pas faire de favoritisme. Et la justice, mais c'est tout simplement la droiture, le droit et le respect des lois. Et le prophète Amos vivait dans une époque où le peuple, comment dire, favorisait les gens aisés et délaissait les pauvres derrière. Le peuple juif choisissait d'honorer les méchants, les gens qui volaient. Les gens qui volaient, les gens qui étaient corrompus, se baladaient dans le pays en toute impunité. Pendant que ceux qui souffraient, on ne les considérait pas. Et c'est dans ce contexte-là que Amos prophétise. Et Dieu, au travers du prophète, leur pose une question. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Vous et moi, si vous voulez, parce qu'eux, ils se comportaient comme ça, mais ils continuaient à prier Dieu. Et Dieu disait, vous venez me prier, vous venez me chercher, vous venez au temple et vous faites des adorations, mais vous, derrière, vous commettez l'iniquité en ne considérant pas le pauvre et en commettant des injustices. Donc, on ne peut pas être d'accord, parce que moi, s'il y a bien des choses qui me caractérisent, c'est la justice, l'équité. Je suis le Dieu qui ne fait pas de favoritisme et qui considère le pauvre et le faible. Amen. Et c'est dans ce contexte-là que Amos leur pose la question. Et il y a cinq choses à retenir de ce verset que Amos nous donne, de cette parole qu'Amos nous donne. La première chose que l'on peut retenir de cette parole venant d'Amos, c'est que, une relation entre deux personnes qui marchent ensemble sous-entend que vous êtes accordé avant. Lorsque tu décides de marcher avec quelqu'un, c'est parce que tout simplement vous êtes déjà d'accord. D'accord sur quoi? On va le voir tout à l'heure. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que lorsque tu décides de marcher avec quelqu'un, cela veut dire que vous avez la même vision de la vie, la même vision des circonstances, la même vision du ministère, la même vision de la société. Vous avez les mêmes centres d'intérêt. Vous voyez la même chose. Et c'est plus facile de marcher avec quelqu'un qui a la même vision que nous que quelqu'un qui n'en a pas. La troisième chose, c'est que vous marchez dans la même direction. Vous allez dans la même direction. La quatrième chose, c'est que vous avez les mêmes valeurs ou encore les mêmes convictions. Et la cinquième chose, c'est que vous avez embrassé les mêmes principes et les mêmes standards. Les mêmes principes. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui ne considère pas les principes de la Bible. Tu dis, oui, voilà, mon meilleur ami, c'est telle personne, et cette personne, c'est un païen. Dieu dit, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Vous ne pouvez pas marcher ensemble. Dans le cadre, par exemple, des mariages. Tout à l'heure, j'ai parlé de mariage. Dans le cadre des mariages, tous les deux, vous êtes non-chrétiens. Et puis toi, tu rencontres le Seigneur, lui, il ne connaît pas le Seigneur. Là, c'est différent, parce que vous êtes mariés, vous êtes ensemble. Vous avez une vie conjugale. Donc, tu ne peux pas te séparer de cette personne comme ça, parce que vous êtes liés. Amen. Là, il y a d'autres solutions pour résoudre le problème. Donc, cette personne, tu es obligé de rester à côté d'elle et de la fréquenter et de marcher avec elle. Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un avec qui tu n'as aucun lien, Dieu dit, cette personne n'embrasse pas les principes du royaume, donc tu dois faire très attention à cette fréquentation, voire t'en éloigner. Et tout cela, ce sont des prérequis pour marcher avec une personne et particulièrement avec Dieu. L'un des gros problèmes que l'on a avec Dieu, c'est que l'on cherche Dieu, on veut connaître Dieu, on veut marcher avec Dieu, mais on ne veut pas épouser ses principes. On ne veut pas épouser ses principes. On veut connaître Dieu, on veut recevoir la faveur de Dieu dans notre vie, on veut expérimenter des percées avec Dieu dans notre vie, au niveau de notre couple, au niveau de nos finances, au niveau des affaires, au niveau de notre vie professionnelle. Mais quand Dieu nous met sur la balance par rapport à sa parole, on est léger. On est léger. Parce que quand Dieu prend le temps de regarder à notre vie, il se rend compte que mais il y a des choses qui ne vont pas là. Tu veux recevoir des percées financières, par exemple, l'argent. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'argent? L'argent, c'est un facteur important dans la vie. Quelqu'un m'a dit, oh, l'argent, c'est pas bon. Je lui ai dit, tu es sûr? Non, l'amour de l'argent, c'est pas bon. Mais l'argent est bon. L'argent apporte des solutions à tout, frère. L'argent, c'est une très bonne chose même. Donc, il ne faut pas, certes, en être cupide, mais il faut désirer en avoir suffisamment pour être confortable dans ta vie. Amen. Tu veux avoir des percées financières concernant l'argent? Et il y a un principe dans la Bible lié à l'argent qui dit que si tu veux que je déverse la faveur financière sur ta vie, livre de Malachie chapitre 3, amène à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Et alors tu verras si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour te bénir. Donc quand quelqu'un me dit j'ai des gros soucis d'argent, la première question que je lui pose c'est est-ce que tu donnes ta dîme à Dieu, à une œuvre que Dieu bénit? Bien entendu, la dîme ne te bénit pas seulement au niveau financier. La dîme t'ouvre aussi des portes à d'autres niveaux de ta vie. Parce que les gens lient toujours la dîme à l'argent. La dîme, ce n'est pas l'argent seulement. La dîme peut toucher différentes situations dans ta vie. Tu peux être quelqu'un qui est peut-être béni au niveau financier, mais au travers de ta dîme, Dieu va t'ouvrir une porte par rapport à la stérilité que tu as. Amen. Donc ça touche beaucoup de domaines. Donc, pour pouvoir s'accorder avec Dieu, pour pouvoir marcher avec Dieu, il faut s'accorder avec lui. Et Dieu accorde beaucoup d'attention aux personnes avec qui tu marches, à tes relations, pour la simple et bonne raison que les fréquentations que tu as peuvent détruire ta destinée en Christ. Les fréquentations que tu as peuvent détruire ta destinée en Christ. Et les gens avec qui tu choisis de marcher, non seulement peuvent avoir une mauvaise influence sur ta vie, mais elles peuvent influencer ta vision, ta perception de Dieu. Dans le livre de Corinthiens, Paul nous dit ceci. Pour vous situer dans le contexte ici, Paul est en train de s'adresser aux Corinthiens. Il a pris 3 ans et demi pour monter cette église. Il a fait asseoir la parole du royaume. C'est des gens qui avaient une très bonne mentalité. C'est des gens qui connaissaient la parole de Dieu. Et c'est une église qui avait reçu beaucoup de dons de la part du Saint-Esprit. Mais il s'avère que dans cette église, il y a des gens qui ont commencé à remettre en doute la doctrine que Paul prêchait, c'est-à-dire Christ. Et l'une des doctrines qu'il remettait en question, c'était la résurrection. Parce que Paul disait que Christ est mort et il est ressuscité et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes assis à la droite de Dieu avec lui. C'est ce qu'il nous dit dans ses lettres. Et il y a des gens dans l'église de Corinthe qui remettaient ça en doute. Il y a des gens qui remettaient ça en question et les gens qui étaient particulièrement proches de Paul, particulièrement les leaders dans l'église, eux aussi commençaient à remettre ça en doute. Est-ce que vraiment Jésus est ressuscité? Ah, cette histoire-là, on ne le voit plus de nos yeux. Est-ce qu'il est mort ressuscité? Et Paul leur parle. Regardez ce qu'il dit. 1 Corinthiens 15 au verset 19, il commence à dire ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Et quand il dit ça, il le dit à des chrétiens dans l'église qui sont divisés. Et il parle à des gens qui ont commencé à fréquenter des juifs qui étaient entrés dans l'église et qui commençaient à influencer de manière négative leur manière de penser. Et là, il conclut en disant une parole que l'on connaît tous, « Ne vous y trompez pas. » Est-ce qu'on peut dire avec moi « Ne vous y trompez pas ?» Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez pas, ne péchez point, car quelques-uns, c'est une parole Dieu qui le dit, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte. Dans la version française courant, qui traduit encore mieux, il dit, ne vous y trompez pas, les amis. Les mauvaises compagnies sont quoi? La ruine d'une bonne conduite. Revenez à la raison comme il convient et cessez de pécher par vos murmures, par vos calomnies, par votre insoumission à l'autorité. Toujours en train de parler mal des serviteurs de Dieu en disant que, oh, est-ce que tu penses que ce qu'il dit c'est la vérité, etc., etc. Je le dis à votre honte, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Amen. En d'autres termes, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, il y a certaines compagnies, même il y a certaines compagnies qui peuvent t'amener à avoir une mauvaise conduite devant Dieu et à ne pas être digne de lui. Quand il dit « quelques-uns ne connaissent pas Dieu », ce sont des gens qui prient tous les jours qui vont à l'église. Il dit « vous ne connaissez pas Dieu ». Parce que quand tu remets en question la doctrine de Christ concernant la résurrection, alors il est sûr et certain que tu n'as pas rencontré Dieu. Tu n'as pas rencontré Jésus parce que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité et peut donner sa vie à Jésus que quelqu'un qui croit de tout son cœur que Christ est ressuscité. Amen. C'est très important. Les mauvaises fréquentations. Et quand on parle de culture du royaume, quand Dieu, le Saint-Esprit, le tuteur royal, entre dans ta vie à la nouvelle naissance et commence à faire un travail en renouvelant ton intelligence, il y a un travail que le Saint-Esprit va faire. Il va commencer, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il va commencer à éloigner de toi certaines personnes. Tu n'as pas remarqué ça? Quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a des gens, je ne sais pas, il y a un truc qui ne passe plus et puis il commence à les éloigner de toi. Ou bien ces gens ne te comprennent plus, ils te voient, ils te regardent bizarre maintenant, etc. Et puis ils commencent à prendre leur distance avec toi. C'est Dieu qui fait ça. Parce que Dieu ne permet plus que tu puisses marcher avec ces gens. Et les problèmes commencent quand toi tu forces. La personne, quand tu l'appelles, elle ne décroche plus son téléphone. Tu lui envoies des mails, elle ne répond plus. Au lieu de discerner que c'est Dieu qui coupe cette relation, toi, tu l'as maintenant. Oh, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu ne m'appelles plus? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je donnais ma vie à Jésus. Oh, Problème. Et cette personne, et tu commences à attirer le mépris sur toi. Les fréquentations. Est-ce qu'on peut dire avec moi les fréquentations? Pire encore. Paul dit que certaines fréquentations peuvent détruire ta perception de Dieu et t'empêcher à ne pas le connaître. Ta perception de Dieu. Il y a des gens, quand tu marches avec eux, à force de marcher avec eux, à force de les entendre te parler, à force de passer du temps avec eux et à les entendre parler et à remettre en question la parole de Dieu ou bien à dénigrer les principes de Dieu, dans ta vie, tu vas finir par penser comme eux. C'est pour cela qu'il y a des gens, quand tu es à côté d'eux et qu'ils commencent à dénigrer ce à quoi tu crois, tu dois dire, frère, je t'aime bien, sœur, je t'aime bien, mais ça c'est mon Dieu. C'est mon Dieu, je n'accepte pas que tu puisses parler comme ça. Si toi et moi tu veux qu'on s'entende bien, tu ne parles pas de mon Dieu comme ça. Ah, mais c'est le Dieu de tout le monde. Non. Ce n'est pas le Dieu de tout le monde. Mais c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, non, tout le monde croit en lui, nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, on n'est pas tous des enfants de Dieu. Quoi? Un jour j'ai dit ça à des gens. J'ai sorti cette phrase. On n'est pas tous des enfants de Dieu. Je leur dis non. On n'est pas tous des enfants de Dieu. Comment tu peux dire qu'on n'est pas tous des enfants de Dieu? Nous avons tous été créés par Dieu. Oui, on est tous des créatures de Dieu. Mais on n'est pas tous des enfants de Dieu en Christ. Oui, mais bon, là tu es dans la religion. Là. Non, je ne suis pas dans la religion. Oui, nous croyons au Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Oui, moi je crois au Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre et qui un jour est venu dans un corps humain pour nous racheter et il est mort à la croix et il est ressuscité. C'est ce en quoi tu crois? Non, car Dieu ne peut pas engendrer un fils. Ah, ça c'est ta croyance. Mais moi ma croyance c'est que Dieu a un fils. Ce fils s'appelle Jésus et bien plus encore ce fils a des frères. Un s'appelle Luc Ondias, je suis son frère. Oui, mais ça c'est absurde comme croyance. Ça. Je dis, ah, c'est ton avis. Mais moi c'est ce en quoi je crois. Ouais, mais... on ne peut pas croire en ça. Ah, donc, toi et moi, on ne peut plus marcher ensemble alors. Je suis resté pendant près de 12 ans à Paris avec un jeune garçon que j'appelais mon meilleur ami. C'était un musulman. Ce garçon, vraiment, je l'aimais. Hein. On a fait les 400 coups ensemble. On est sortis, on a bringué ensemble. On a fait les boîtes de nuit ensemble. On a fait tout ce qu'on veut ensemble. On s'est rencontrés à l'école et on a grandi ensemble au quartier, à Paris. Lui, il était musulman, très pratiquant. Moi, j'étais rien. Moi, j'étais juste un gars perdu. Et un jour, je rencontre la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Là, il commence à avoir de sérieux problèmes entre nous. Parce que moi, je commençais à me consacrer. Je commençais à lire la Bible tous les jours. Mon langage changeait, ma culture changeait, ma manière de penser, de voir le monde changer. Et lui, tout le temps, il aimait toujours réciter ses sourates à côté de moi. Avant, ça ne me dérangeait pas. Oh, Luc, là, je dois prier, là. Il sort son petit tapis et puis il commence à prier dans ma chambre. Tu attends 10 minutes que je finisse. Et puis moi, pendant ce temps, je suis sur Internet, je sors. Et puis lui, il fait sa prière à côté. Mais quand j'avais donné ma vie à Jésus, au bout d'un moment, ça, je ne voulais plus ça dans ma chambre. Je ne voulais plus. J'ai dit non. Frère, arrête ça. Quoi, ça te dérange? Avant, ça ne te dérangeait pas. Oui, mais maintenant, ça me dérange. Fréquentation. Et ça a commencé à créer des problèmes entre nous. Et au bout d'un moment, on commençait à moins se voir. Quand un jour je l'appelle, il ne décroche plus. Je vois les textos, il ne répond plus. Il avait compris que cette relation ne pouvait plus continuer. Et moi, je n'ai pas forcé, j'ai laissé tomber. Les mois sont passés. Et puis un jour, on se croise par hasard dans la rue. Il fait, ah, Joe, qu'est-ce qui se passe? On ne s'appelle plus là. J'ai dit, ah, c'est peut-être Dieu qui fait en sorte qu'on ne s'appelle plus. Tout simplement. Il m'a regardé. Il a fait, ok, d'accord, on reste ensemble, on reste en contact. C'est fini, ça s'est coupé comme ça. Quelqu'un avec qui je suis resté plus de 12 ans. C'est fort, hein? Juste parce que j'avais accepté le verdict de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux être la personne la plus résolue pour avancer dans le Seigneur. Tu peux avoir pris toutes les bonnes résolutions du monde pour changer ta vie et faire grandir ta communion avec le Saint-Esprit. Si tu as de mauvaises fréquentations, elles t'influenceront négativement et t'empêcheront de connaître Dieu. Et c'est pour cela que tu dois faire très attention aux relations que tu choisis d'avoir. Pourquoi Dieu te demande de veiller à tes relations? Pourquoi Dieu craint que tu aies des relations néfastes concernant ta vie? Il y a trois raisons. Est-ce qu'on peut y aller avec moi trois? La première raison, c'est qu'une mauvaise relation, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, détruit ta perception et ta connaissance de Dieu. Quand tu marches avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, cette personne va déteindre sur toi. Et cette personne va influencer ta manière de penser. Et c'est pour cela que Paul nous dit dans Éphésiens 4, verset 17, une parole très forte que l'on connaît tous, mais que je prends le temps encore de nous rappeler. C'est l'un des passages qui a changé ma vie, et c'est pour cela que c'est l'un des passages que je connais pratiquement par cœur dans la Bible. Quand il dit, Éphésiens 4, verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. » Paul ici s'adresse à des gens qui sont dans l'église, mais qui pensent comme des païens et qui continuent de fréquenter les païens. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus fréquenter les païens. Les païens, ils sont avec nous, ils sont au boulot avec nous, on les a à côté de nous tous les jours. Paul dit, ils sont à côté de nous et on doit rester avec eux. Parce que nous sommes la lumière du monde et nous devons briller pour les influencer et les amener à Christ. Mais nous ne devons pas en faire des fréquentations privilégiées au point de devenir amis avec eux. C'est à ça que nous devons faire très attention. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Il faut faire très attention. Parce qu'un païen est quelqu'un qui marche selon la vanité de ses pensées. Et tu peux même avoir des chrétiens dans l'église, mais qui marchent comme ça, qui pensent comme ça. Ce n'est pas seulement les païens. Quelqu'un peut avoir donné sa vie à Jésus et marcher selon la vanité de ses pensées. Quelqu'un dit mature, bébé spirituel, charnel, naturel. Et quand tu as quelqu'un comme ça à côté de toi, Paul dit fais très attention. Parce qu'un païen, ce n'est pas absolument quelqu'un qui ne... Comment dire? Un non-croyant. Un païen, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Tu peux avoir donné ta vie à Jésus, mais te comporter comme un païen. Il y a des gens qui vont à l'église tous les jours. Par exemple, vous allez dans la religion catholique, il y a des gens qui sont vraiment mais assidus, hein. Ils sont à l'église catholique tous les jours, ils font les offrandes, tout ce qu'on veut. Mais quand vous voyez leur vie, ils vivent comme des païens. Par contre, ils aiment leur religion. Ils aiment leur religion. Mais ils vivent comme des païens. Il est chrétien. Quand tu lui dis, est-ce que tu crois en Jésus? Les catholiques croient en Jésus. Il a donné sa vie à Jésus, le catholique. Pour lui, c'est encore l'enfant Jésus, certes. Mais il a donné sa vie. Il connaît Jésus. Mais il vit comme un païen. Il vit en concubinage. Il fume. Il sort, etc., etc. Amen. Donc, Paul dit, fais très attention à ce type de relation. Le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est qu'il y a des relations aujourd'hui que l'on a et que l'on refuse de couper. Et ça influence notre manière de penser, ça influence notre relation avec Dieu. Il y a relation intime et il y a relation amicale. Les relations intimes sont beaucoup plus délicates. Parce que tu es lié intimement à la personne. Donc ça, il faut faire preuve plus de sagesse, de douceur, d'amour et de patience par rapport à l'autre qui ne connaît pas Christ. Il ne faut pas te précipiter. Dieu t'a pas dit de couper la relation. Quand tu es lié à quelqu'un intimement, Dieu ne dit pas qu'il faut couper comme ça. Dieu dit que si vous êtes lié intimement, essaie d'emmener cette personne à Christ. Si cette personne ne veut pas, alors tant pis, avance. Mais si c'est juste une relation amicale et que vous n'êtes pas lié, Dieu dit... Il n'y a rien là, tu coupes. Il n'y a rien. Amen. La deuxième raison pour laquelle Dieu veut que tu veilles à tes relations, c'est qu'une mauvaise relation peut altérer ton jugement. Ton jugement. À force de rester avec une personne qui n'a pas une influence positive sur toi, ta perception du monde risque d'être déformée. Tu ne peux pas changer ce que tu tolères. Ce que tu tolères, c'est ce que tu acceptes dans ta vie. Et quand tu acceptes d'avoir quelqu'un à côté de toi, qui non seulement a une mauvaise influence sur toi, mais en plus altère ton jugement, cette personne va créer une déformation de ta perception du monde autour de toi. Je m'explique. Si tu tolères le péché dans ta vie, tu finiras par t'y habituer. Si tu tolères quelqu'un qui vit dans le péché à côté de toi, tu finiras par t'y habituer, voire même sans t'en rendre compte, toi aussi péché. Si tu tolères les grossièretés, tu finiras par devenir aussi grossier. Si tu tolères quelqu'un à côté de toi qui est tout le temps grossier, tu finiras par devenir grossier sans t'en rendre compte. Si tu tolères l'impureté, tu finiras aussi par commettre des actes impurs. Si tu tolères la violence dans ta vie, tu finiras aussi par devenir violent. Si tu tolères la rébellion, à force de marcher avec quelqu'un qui est tout le temps rebelle, quelqu'un qui dit « Ah non, on va dans la même église là, mais lui là, c'est pas mon pasteur, hein. Lui là, c'est pas mon patron, hein. Lui là, je ne me soumets pas à lui. Hein. Tu restes avec quelqu'un comme ça, il va finir par te faire penser comme ça. » Je vous assure, ce dont je parle là, s'il y a bien un sujet hein, que ma femme et moi, on connaît, c'est ce sujet. Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes à cause de certaines fréquentations. Aujourd'hui, ma femme qui est là peut rester sans ordinateur, sans notes, elle va rester une heure à vous parler des fréquentations. Hein? Si tu tolères la rébellion, tu finiras par devenir aussi rebelle. Si tu tolères la mauvaise humeur à côté de toi, tu finiras par être aussi de mauvaise humeur. Il y a des gens, vous ne savez pas pourquoi, ils sont tout le temps énervés. Ça, c'est typique le Gabonais. Vous arrivez, bonjour, il ne te répond pas. Oui, vous voulez quoi? Où? Ça, c'est typique la culture du monde. Typique. Oui, la personne te dit quelque chose, mais elle te dit ça toujours énervé. Une fois, j'étais dans un taxi, j'allais à un rendez-vous, et puis, vous n'avez pas remarqué que dans Libreville, quand vous dites taxi, telle destination, etc., il ne te répond pas. Ou bien il te type, et puis il s'en va. Et puis moi, je lui ai fait, mais pourquoi tu types la personne? Et t'as fait quoi? Ah, c'est quoi? Elle n'a qu'à miser plus? Ouh. Mais t'as dit 1500. Si ce n'est pas suffisant pour toi, tu dis non, et puis tu t'en vas. Pourquoi tu types et puis tu fais genre... C'est quelle façon de mépriser les gens, ça? J'ai dit, vous les taxis, vous avez un problème à Libreville. C'est devenu une culture dans tout le pays. Maintenant, tous les taxis, quand on arrête les taxis, vous typez tous et puis vous ne répondez pas. C'est quoi votre problème? Mauvaise humeur, toujours énervé. Il y a des gens, tu marches avec eux, tu ne comprends pas pourquoi ils sont toujours énervés. C'est les gens, ils s'est levé le matin, tu sais, il est énervé.
Il est énervé.
Tu comprends pourquoi? Et ce type de personnes, si tu les tolères à côté de toi, c'est très dangereux. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 16, « Soyez toujours joyeux. » Et si tu marches avec quelqu'un qui est toujours énervé, il va altérer ta joie. Amen. C'est très important. Si tu tolères l'impolitesse, tu finiras par devenir aussi impoli. Moi, je n'aime pas les gens qui sont impolis à côté de moi. Les gens qui ne savent pas dire merci. Les gens qui parlent toujours avec agressivité. Les gens qui, quand ils te posent une question, ils te posent la question comme si on dirait tu es obligé de répondre. Ou bien les gens qui te disent les choses sans dire s'il te plaît, comme s'ils sont en train de te donner des ordres. Ah, ça, c'est... Ici, c'est... Fais ci. Fais ça. Oui, une fois, je regardais un directeur général, enfin, quelqu'un qui était dans une société, et puis il commence à appeler au téléphone ses secrétaires. Oui, tu as fini avec le dossier? Amène-moi ça tout de suite. Il raccroche. Quand il arrive. Mais c'est quoi ça? C'est comme ça que vous remplissez le papier? Hein? Il faut changer ça. Oh, ça c'est quoi? La secrétaire, oui monsieur. Hein? C'est quoi? Vous passez des heures pour faire ça? Je lui dis, oh, monsieur. Je le regardais, je lui dis, mais c'est quoi son problème? Les gens travaillent pour toi. Demande ça doucement. Impolitesse. Parce qu'il se sent important. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Les gens, parce qu'ils ont un titre, ou bien parce qu'ils ont une position, tout de suite, ils se donnent de l'importance et le droit de toujours mépriser les autres. Ça, c'est typique l'Africain. Si tu tolères la saleté, tu finiras par devenir aussi sale. Les gens qui sont sales à côté de toi. Moi, je n'aime pas les gens sales. Ma femme aussi n'aime pas les gens sales. Marcher avec quelqu'un qui est sale, ce genre de personne, il faut t'en éloigner. Si tu tolères le manque de savoir-vivre, pareil, tu finiras aussi par ne pas avoir de savoir-vivre. Si tu tolères la colère et l'agressivité, tu finiras aussi par devenir colérique et agressif. Salomon nous dit, ne te lie pas avec quelqu'un d'irritable et fuis la compagnie de l'homme agressif. Sinon, tu te mettras à imiter leur comportement et tu seras pris dans un engrenage fatal. Si tu marches avec des gens qui sont agressifs et coléreux, que tu le veuilles ou non, même si tu aimes bien la personne, toi aussi, il éteint sur toi. Gloire à Dieu. Proverbe 27, 17 dit, le fer aiguise le fer. Ainsi, un homme excite la colère d'un homme. À force de rester avec quelqu'un qui est tout le temps coléreux, il finira par te rendre colérique. Et la troisième raison pour laquelle Dieu veut que tu veilles à tes relations et à ce qu'elles ne soient pas néfastes, c'est qu'une mauvaise relation peut détruire ton potentiel. Est-ce qu'on peut dire avec moi le potentiel? Le potentiel. Le potentiel. Dans ta vie, rien n'aura autant d'influence sur ton potentiel que les relations que tu entretiendras avec d'autres personnes. Lors du séminaire, j'ai parlé d'une loi très importante, la loi de l'environnement. Si tu marches avec des gens qui ont une influence négative sur toi, ils vont t'éteindre sur tes dons et tes talents. Il y a des gens, quand tu marches avec eux, même si tu les aimes bien, même si c'est quelqu'un de ta famille, même si c'est un ami proche, ou même quelqu'un avec qui tu as une relation intime, il est tout le temps en train de te décourager. Dès que tu dis, oh regarde, j'ai une idée, je vais faire ceci. Ah, laisse ça. Tu vas faire quoi avec ça ici? On t'a dit qu'on peut réaliser ce genre de choses au Gabon. Va travailler. Oh. C'est quoi? Pouh, il t'a dit, il te casse. Il te casse. Et il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire, c'est naturel. C'est en eux. Leur nature, c'est de décourager les autres. Alors que toi, tu veux encourager les autres. Regarde, j'ai un projet. Oh chérie, regarde. J'ai pensé à ça. Tu penses pas qu'on pourrait monter un tel business? On pourrait faire ceci ou cela, etc. Oh, tu as déjà vu ça au Gabon. Oh, et puis ça va nous encore nous coûter de l'argent. On a des problèmes, toi aussi. Arrête de toujours penser à des trucs comme ça. Oh, il te casse. Et quand il te casse, comme c'est quelqu'un avec qui tu es lié, comme c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup, son opinion compte énormément pour toi. Et parce que son opinion compte énormément pour toi, le fait qu'il dise ça, ça te casse complètement. Il y a des gens qui sont comme ça autour de nous. Des gens qui ont beaucoup d'influence sur nous. Leur opinion est très importante. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de ma mère. Beaucoup de mal. Parce que comme j'ai grandi à l'étranger, comme beaucoup de Gabonais de ma génération, donc je n'ai pas grandi à côté de mes parents. Et ma maman, c'est quelqu'un qui... C'est-à-dire, quand j'étais à l'étranger, parfois je restais des heures au téléphone là à pleurer avec elle parce que je lui disais, je veux rentrer à Libreville. Je suis fatigué de rester ici. Elle me dit, non, tu dois rester là-bas pour l'école. Donc, le jour où je décide de, où j'ai grandi et je décide maintenant de rentrer à Libreville. Je suis très proche de ma maman. Donc elle a une influence très très forte. Elle avait une influence très très forte. Et lorsque je me suis fiancé avec ma femme, l'une des premières choses qu'elle me disait, c'était ta mère a trop d'influence sur toi. Toujours ta mère, c'est quoi? C'est quoi avec ta mère? Et je ne m'en rendais pas compte. Et quand j'avais des idées, des projets, à chaque fois qu'elle disait quelque chose contraire à ce que je voulais faire, ça me cassait. Parce que sans que tu te rendes compte, tu cherches son approbation. Tout simplement. Et il y a des gens qui sont comme ça autour de nous. Ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un avec qui on est lié intimement, ou ça peut être un ami, ou un oncle, quelqu'un qu'on aime énormément. Et quand par exemple tu veux te marier, vous n'avez pas remarqué que quand vous voulez vous marier, il y a des gens dans la famille, vous voulez vraiment leur approbation. C'est comme si, si cette personne dit non, tu ne peux pas te marier, quoi. Mais cette personne n'a aucune autorité sur toi, si ce n'est pas ton père ou ta mère. Et même encore quand ce sont tes parents. Quand ce sont tes parents, effectivement, tu dois obtenir leur bénédiction avant de te marier. Mais il y en a, comme leurs parents ne comptent pas beaucoup pour eux, quand même quand les parents disent non, ils disent, ah, on s'en fout, on va se marier alors. Mais il y en a d'autres, leurs parents, c'est trop important. Il y en a, c'est leur maman. Si la maman a dit non, tant que la maman n'a pas dit oui, tu ne peux pas te marier. Ou même si tu décides, tu arrives à convaincre la femme de t'épouser, tu sais que dans la maison là, il y aura toujours quelque chose, parce qu'il y aura toujours quelque chose d'incomplet, parce qu'elle n'aura pas eu l'approbation de sa maman ou de telle personne. Amen. Et il y a des gens qui sont comme ça. Et quand tu as du potentiel, quand tu es quelqu'un de talentueux, tu es quelqu'un qui rêve grand, tu es quelqu'un qui a des ambitions, tu veux aller loin dans la vie, et que tu as à côté de toi des gens qui sont tout le temps en train de te casser, ce sont des gens que moi j'appelle les tueurs de potentiel. Et ces gens, même si tu es très attaché à eux, il faut t'en détacher. Les tueurs de potentiel. Est-ce qu'on peut dire comment les tueurs de potentiel? Pour réussir dans la vie, entoure-toi des bonnes personnes, des gens qui te font progresser et non reculer. Dieu dit de toi que tu es un aigle. Est-ce qu'on peut dire comment je suis un aigle? Alors commence à voler comme un aigle. Dieu dit que tu es un tueur de géants. Est-ce qu'on peut dire comment je suis un tueur de géants? Appelé à faire des exploits, alors commence à marcher avec des gens qui font des exploits. Dieu t'appelle à être également un entrepreneur. Est-ce qu'on peut dire avec moi, je suis un entrepreneur? Alors commence à marcher avec des gens qui opèrent avec des entrepreneurs. Marche avec des gens de la même espèce que toi. Marche avec des gens qui pensent comme toi. Marche avec des gens qui t'influencent positivement. Construis des relations positives dans ta vie. Fais le bilan. Regarde autour de toi, dans ton portable, tes collègues de travail, tes amis, tes relations proches ou lointaines. Regarde les gens qui ont une mauvaise influence sur ta vie et c'est partant. Tout simplement. La vie est trop courte. La vie est trop courte, les amis. La vie est trop courte pour perdre son temps pour recevoir l'approbation des gens. Ne soyez pas comme ceux qui sont tout le temps en train de chercher l'approbation de quelqu'un. Il y a des gens, une fois je vois quelqu'un, il arrive à une conférence, et puis à la conférence, parce qu'il est pasteur. Mais les hôtesses n'avaient pas reconnu que c'était tel pasteur. C'était un pasteur très connu. Et puis, les hôtesses viennent et puis elles lui disent, monsieur, venez. Il suit les hôtesses. Et puis les hôtesses le font asseoir derrière. Monsieur, asseyez-vous ici. Oh. Non, mais je suis, monsieur, la salle est pleine. Asseyez-vous ici. Oui, mais je suis, asseyez-vous, monsieur. Et puis il répond à l'hôtesse, vous savez qui je suis? Et l'hôtesse le regarde, non, je ne sais pas. Mais j'en sais suffisamment pour comprendre que vous avez vraiment une mauvaise mentalité, monsieur. Quand je suis l'hôtesse, quand je vous dis de vous asseoir ici, vous vous asseyez ici, monsieur. Oui, mais je suis pasteur. Et alors, tu t'assois ici. C'est moi l'autorité ici en ce qui concerne les places. Tu t'assois, monsieur. Et puis, il y a un responsable de l'église qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est le pasteur. Oui, mais il ne veut pas s'asseoir. C'est quoi son problème? Il n'y a plus de place, je crois qu'il n'y a plus de place. Parce qu'il est pasteur, et alors? Si c'est un pasteur qui parle comme ça, là, vraiment, je n'irai pas dans son église. Hein? Et il dit, est-ce que tu sais qui je suis? Le genre de personne qui a besoin qu'on valide son identité pour savoir qui il est. Si toi, tu ne sais pas qui tu es, alors il y a un souci. Amen. Donc, marche avec des gens de la même espèce que toi. Marche avec des gens qui pensent comme toi. Marche avec des gens qui stimulent ton potentiel. Marche avec des gens qui t'encouragent. Marche avec des gens qui t'influencent positivement à aller de l'avant. Entoure-toi des gens comme ça. C'est une loi, la loi des associations. Et c'est le plus grand danger que de t'associer avec de mauvaises personnes. Parmi les lois du royaume, l'une des lois les plus importantes, c'est la loi des associations. Et cette loi est extrêmement importante. La Bible nous raconte, on va lire une histoire rapidement, on a presque fini. La Bible nous raconte l'histoire du roi Roboam. Beaucoup de gens passent rapidement cette histoire. Mais c'est une histoire qui a eu un impact énorme dans l'histoire d'Israël. Qui est Roboam? Roboam, c'est le fils de Salomon. Salomon, c'était le fils de David. Et le premier fils de Salomon s'appelait Roboam. Et lorsque Salomon est décédé, c'est son fils Roboam qui a pris la suite du royaume. C'est lui qui est devenu roi. Et au moment où Roboam prend le règne, la première chose que les serviteurs du royaume, c'est-à-dire les esclaves, font, c'est qu'ils mettent à leur tête un jeune homme appelé Jéroboam, qui était le serviteur, qui était un des serviteurs de Salomon à l'époque, et Dieu avait prophétisé sur sa vie en disant que c'est toi qui deviendras le futur roi d'Israël. Et Jéroboam, à la tête des esclaves et des serviteurs, vient voir Roboam un jour. Et il demande à Roboam, le roi, le fardeau que ton père avait mis sur nous était trop lourd. S'il te plaît, maintenant que tu es là, le nouveau roi, allège notre fardeau. Et on te servira fidèlement. Et lui, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, revenez dans 3 jours, je vais réfléchir. Qu'est-ce que Roboam fait? Roboam va voir 2 personnes. Un, il va voir les anciens du château pour leur demander conseil. Parce que c'était grave la situation, il fallait prendre une décision importante. La décision allait déterminer la suite. Donc il va voir d'abord les vieillards. Et regardez ce qui se passe. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dit les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Tu vois? Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Le peuple a dit, oh, et puis il va te faire voir. Tu n'es pas notre roi. Tu veux nous alléger, tu veux nous alourdir le fardeau, on ne te servira pas. Et c'est ce qui a créé dans l'histoire du peuple juif, ce qu'on appelle le schisme. C'est comme ça que Israël se sépare en 2, et il y a Israël et Juda. Et Roboam reste à la tête de Juda, pendant que Jéroboam va devenir le roi d'Israël. Amen. On ferme la parenthèse de l'histoire. Et tout au long de sa vie, à cause de la décision qu'il avait prise, tout au long de sa vie, 1 Roi 14, 30 dit, il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Toute sa vie, il a souffert, ce gars. À cause de quoi? À cause d'un mauvais conseil des jeunes gens qui l'entouraient. Pourquoi est-ce qu'il a préféré écouter le conseil de ces jeunes gens de la même génération que lui au lieu d'écouter le conseil des anciens? Parce que c'était ses potes. Il bringuait avec eux, il faisait la fête avec eux. Et ces gens avaient une mauvaise influence sur lui. Donc, j'ai envie de te dire que si tu prends le temps de regarder à tes échecs et même à tes réussites dans la vie, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens que tu fréquentais qui sont toujours à l'origine de ça. Il y a des problèmes que tu as eus, c'était toujours quelqu'un. Quelqu'un qui t'a amené à poser une action. Toujours, c'est toujours lié à quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire amen? Et moi, j'ai envie de te dire au nom de Jésus-Christ, pour finir, l'échec ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Et que la réussite et la prospérité sera toujours attachée à toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Et aujourd'hui, Dieu te donnera la force de couper les liens avec toute personne qui veut te maintenir dans le péché et dans l'esclavage au nom de Jésus. Oui, S'il y a des gens avec qui tu n'arrives pas à couper les liens, qui sont trop importants pour toi, Dieu te donnera suffisamment la force d'aller les voir et leur dire, c'est bon, on arrête. C'est bon, toi et moi, on ne marche plus ensemble. Les personnes dont nous nous entourons n'influencent pas toute notre vie de la même manière. Et on va finir avec ça. Les gens qui nous entourent n'influencent pas toute notre vie de la même manière. Les premières personnes qui nous entourent, qui sont importantes pour nous, c'est la famille. La famille. Et les gens de la famille qui sont proches de nous, que nous aimons et qui sont avec nous tout le temps, on ne peut pas vraiment s'en séparer. Ces gens, leur approbation, d'une manière ou d'une autre, compte pour nous. Mais tu dois arriver à la dimension où, quel que soit ce qu'ils disent, tu avances. Et c'est ce que Jésus-Christ a vécu. Si Jésus-Christ l'a vécu, toi aussi, tu vas le vivre. Jésus, dans Marc 6, la Bible nous dit que Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, c'est-à-dire sa famille. Ses disciples suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jules et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Au verset 4, il est écrit, « Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. » Le premier cercle relationnel autour de toi, c'est ta famille. Mais ce sont les premières personnes qui ne croiront jamais en toi. Tu peux avoir une destinée, Dieu peut t'avoir mis à cœur un rêve, des projets. Dieu peut t'avoir donné un appel sur ta vie. Mais les premières personnes qui ne croiront pas en toi, ce sont les gens de ta famille. Parce qu'ils ont grandi avec toi et ils pensent qu'ils te connaissent. Jésus était le Messie. Mais ce sont ses frères et ses parents qui n'arrivaient pas à reconnaître qu'il était le Messie. Vous n'avez pas remarqué qu'un gars qu'on appelle Joseph, qui était le fiancé de Marie, on le voit juste apparaître juste au début de l'histoire de Jésus. Après, il disparaît de la Bible, hein, ce gars. Il a totalement disparu. Lui, son appel, c'était de veiller sur Marie quand elle était enceinte. Dès que Marie a accouché, la Bible dit que Joseph eut d'autres enfants avec Marie. Mais Joseph n'avait pas vraiment de lien avec Jésus. Il n'avait pas de lien avec Jésus. Et ses propres frères, Jésus, ses propres frères, ne croyaient pas en lui. Et les gens qui sont autour de toi, qui te sont proches, ta famille en particulier, je t'assure, sois à l'aise avec ça. Sois à l'aise avec ça. Ils ne croiront pas en toi. Les gens que tu aimes, ils ne te suivront pas. Tu veux te lancer dans une affaire, tu veux te lancer dans le ministère, tu veux te lancer dans un business, les gens de ta famille ne croiront pas en toi. Et si, pire encore, tu es marié, si tu n'as pas une connexion avec ton conjoint comme ça, là, il ne croira pas en toi. Parce qu'il est avec toi tous les jours. Quand tu dis « Dieu m'a parlé », il va dire « Tu t'as parlé où ?» Il t'a parlé où ? La famille. Est-ce qu'on peut dire avec moi la famille ? Le deuxième cercle, très important, c'est le cercle, c'est les relations conjugales. Ton conjoint peut être aussi un frein à ta croissance avec Dieu. Ton conjoint peut être aussi un frein. Et c'est pour cela que tu dois faire preuve de beaucoup de sagesse en ce qui concerne ton appel avec Dieu quand il s'agit de ton conjoint. Si ton conjoint est à 100% avec toi, gloire à Dieu. Là, c'est encore mieux. Mais si ton conjoint n'est pas avec toi, alors tu dois faire très attention. Tout à l'heure, je l'ai dit, faire preuve d'amour, de sagesse et d'humilité. Et enfin, le troisième cercle, ce sont les amis. Les gens que nous appelons nos amis. Est-ce qu'on peut dire avec moi nos amis ? Nos amis comptent beaucoup pour nous. Ils sont nos conseillers et nos confidents. Ils influencent de près ou de loin nos décisions, nos choix, nos comportements et notre attitude. Et le jour où tu décideras de suivre la voie de Dieu, le jour où tu décideras de marcher avec le Seigneur, les amis que tu devras choisir, tu devras faire très attention. Amen. Gloire à Dieu. Donc, j'ai envie de finir en te disant, choisis des personnes qui comptent pour toi, certes, mais choisis des personnes qui croient en toi. Choisis des personnes qui croient en toi. Et les gens que tu estimes être tes amis ne sont pas toujours tes véritables amis. Quels sont mes véritables amis ? Salomon nous répond dans Proverbes 12, 26. Le juste montre à son ami la bonne voie. Un ami est une personne qui te montre le chemin à suivre. Un ami est quelqu'un qui t'estime beaucoup. Un ami est quelqu'un qui te permet d'aller vers ta destinée. Un ami est quelqu'un qui encourage ton potentiel à être libéré. Un ami est quelqu'un avec qui tu as une relation positive, si je peux dire ça ainsi. Il te permet de progresser sur le chemin de ta destinée. Il te permet non seulement de te rapprocher de Dieu également, mais il te permet aussi d'avancer sur le chemin de ta destinée, de libérer ton potentiel et d'être une source de bénédiction pour ta génération. Un ami est quelqu'un qui t'encourage à aller de l'avant. Est-ce qu'on peut dire amen? Et tu ne peux pas fréquenter des personnes qui t'amènent à faire le contraire. Un ami est quelqu'un qui croit en tes rêves. Un ami est quelqu'un qui croit en toi. Un ami est quelqu'un qui t'encourage sur le chemin de la réussite et qui se réjouit de ta réussite. Les gens que tu vois autour de toi qui ne se réjouissent pas quand tu réussis ou quand tu as un succès, éloigne-toi d'eux. Ça peut être quelqu'un avec qui tu es depuis longtemps, mais au moment où tu lui annonces une victoire, tu vois que ça ne lui fait rien. C'est un signe. Éloigne-toi de cette personne. Elle est jalouse. Une fois, je marchais dans les rues de Libreville et puis je vois quelqu'un qui se balade avec un t-shirt avec écrit dessus, les jaloux vont maigrir. J'ai dit, ah ça, vraiment. Ça, vraiment. Ça, c'est quelqu'un qui a été radical avec ses amis. Un ami est quelqu'un qui te valorise, qui te conseille sur le droit chemin. C'est quelqu'un qui t'écoute. C'est quelqu'un qui garde tes secrets les plus intimes. C'est quelqu'un qui te défend en ton absence. C'est quelqu'un qui stimule ta créativité. C'est quelqu'un qui pleure avec toi dans les moments difficiles. C'est quelqu'un qui, dans les moments les plus cruciaux de ta vie, joue un rôle très important. Et c'est ce qui arriva avec Jésus. Regardez l'histoire. Regardez, Jésus n'a jamais appelé quelqu'un son ami dans la Bible. Si ce n'est ses serviteurs au moment de son départ. Mais en dehors de cette confession qu'il fait à ses serviteurs dans le livre de Jean, il dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. » Il y a quelqu'un qui l'appelle ami dans une circonstance très particulière. Au moment où il se fait livrer. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que je baiserai, c'est celui-là, saisissez-le. » Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Salut Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Judas était l'ami de Jésus. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui lui permettait de rentrer dans sa destinée. Si Judas n'avait pas existé, Jésus ne serait pas allé à la croix. Ouais. Judas était quelqu'un de trop stratégique pour Dieu. Parce qu'il fallait que quelqu'un livre Jésus. Quand on voyait l'attachement de Pierre, de Jacques et de Jean, ça ne pouvait pas être eux qui pouvaient livrer Jésus. Tout était dans le plan de Dieu. Vous n'avez pas vu que Judas n'a pas livré Jésus pour qu'on le tue. Judas a livré Jésus pour que Jésus aille se concerter avec les pharisiens. C'est quand Judas vient demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on le menotte, on l'amène, etc. Ce n'est pas juste une discussion. Les pharisiens vont répondre, non, c'est un procès. Un procès? Oui, et il va être condamné à mort. Judas prend les pièces et il jette. Il dit, c'est pas pour ça que je vous l'ai donné. Et il va se pendre. C'est de là que certains émettent la théorie que Judas n'ira pas en enfer, etc. Blablabla. Enfin bref, ça relève de la dimension de Dieu maintenant. Mais Judas était l'ami de Jésus. Judas était quelqu'un que Jésus aimait. Et Judas a joué un rôle très stratégique dans le plan de Dieu. C'est lui qui a livré le Messie. Et Jésus l'appelle mon ami. Même Pierre, Jésus ne l'a jamais appelé mon ami. Donc quelqu'un avec qui tu as des problèmes. Cette personne-là, tu as des problèmes. Cette personne-là, tu ne la supportes pas. Cette personne-là te met des peaux de banane, des bâtons dans les roues, même au travail ou dans une circonstance particulière. Tu es là, tu dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que cette personne me veut? Dieu dit, cette personne est stratégique pour ta destinée. Tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Il y a des gens, tu ne peux pas les supporter, mais tu ne sais pas que ces gens-là... Moi, j'ai quelqu'un aujourd'hui qui m'a attiré des problèmes au niveau financier. Il refuse de me donner mon argent. Et il me doit beaucoup d'argent. Mais son comportement m'a amené à remettre tout en question et à comprendre que Dieu veut que je me consacre plus au ministère. Il est stratégique. Amen. Et lui, c'est un ami. Quand je vois, je dis, mon ami, ça va. Parce qu'il me pousse vers ma destinée. Il me pousse vers ma destinée. Gloire à Dieu. Les gens que tu dois mettre à côté de toi, un, les gens avec qui tu dois marcher, un, ce sont les gens que tu influences positivement, les gens à qui tu donnes quelque chose. Voici les premières personnes que tu dois mettre à côté de toi. En général, on appelle ça la relation de maître à élève. Ce sont les gens à qui tu apportes des conseils, des plus jeunes que toi. Parce que le fait de donner, de transmettre quelque chose à quelqu'un, ça te fait grandir. Le deuxième type de personnes que tu dois avoir à côté de toi, ce sont les gens avec qui tu partages des expériences. Ce sont les gens que j'appelle les amis de bataille. Ce sont les gens qui sont comme toi. Vous vous aiguisez, vous vous partagez des expériences. Ce sont les gens à qui tu peux témoigner tes victoires, ils font la même chose. Le troisième type de personnes, ce sont des gens que l'on appelle des mentors. Des gens avec qui tu vas t'asseoir et ils vont te donner des conseils. Et les mentors dans la vie sont très importants. Si tu n'as pas de mentor dans ta vie, commence à en avoir. Tu n'es pas obligé absolument que ce soit quelqu'un qui soit proche de toi. Ça peut être quelqu'un qui est sur Internet, ça peut être quelqu'un à tu manges ses CD ou autre, tu lis ses livres comme pas possible, c'est un mentor pour toi. Et les quatrièmes types de personnes, ce sont les pères. Est-ce qu'on peut dire avec moi les pères? Et un père, c'est très important. Le père est quelqu'un qui va te faire gagner beaucoup de temps. Le père, c'est quelqu'un avec qui tu as une relation spirituelle. Le père, c'est quelqu'un qui te connaît. C'est quelqu'un qui, comme toi, tu vois ton enfant, il te voit comme un enfant. Et il va t'apporter des conseils, il va te donner des principes qui vont te faire gagner beaucoup de temps pour ta vie. Les gens que tu influences, les gens avec qui tu partages des expériences, les mentors et les pères. Amen. Les fréquentations. On va incliner la tête. On a fini. Gloire à Dieu. Je voudrais que tu pries. Que tu pries. Et que tu demandes à Dieu. Que tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi le discernement. Éclaire-moi. Éclaire-moi. Donne-moi du discernement et éclaire-moi. Les personnes qui sont autour de moi sont des personnes qui, certes, pour beaucoup, comptent beaucoup pour moi. Mais je te demande de me montrer, Seigneur, qui veux-tu comme personne à côté de moi et qui ne veux-tu pas comme personne à côté de moi? La culture du royaume nous indique simplement que tu fais un travail de renouvellement de notre intelligence. Et il y a des gens qui nous sont proches, qui peuvent jouer un rôle très important sur notre manière de penser, qui peuvent influencer beaucoup notre opinion et notre relation avec toi. Et je te demande, Père, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses nous amener à discerner cette personne. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Merci encore pour ta parole, Seigneur, qui nous éclaire et qui nous donne de l'intelligence. Tu nous montres au travers de ta parole combien il est important de choisir nos fréquentations. Nous te disons merci. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous donne de la sagesse et qui nous amène à comprendre que la vie est courte. Et que nous devons faire très attention aux gens avec qui nous choisissons de marcher. Merci Seigneur pour les personnes, Seigneur, que tu mets à côté de nous, à qui nous pourrons déverser, Seigneur, donner des conseils, apporter des conseils pour leur vie. Merci pour les personnes avec qui nous allons partager nos expériences. Merci pour les mentors qui vont être des repères pour nous. Et merci pour les pères qui vont être des sources de bénédiction et qui vont nous aider à avancer sur le chemin de notre destinée. Merci Père pour toutes ces personnes, Seigneur, qui... Même si ces personnes nous posent des soucis, nous apportent des difficultés et que nous n'avons pas discerné, Seigneur, que ces personnes sont des personnes que tu as placées sur notre route pour forger notre caractère, pour nous propulser sur notre chemin de notre destinée. Nous te disons simplement merci pour ces personnes. Merci pour toutes les personnes qui nuisent, Seigneur, à notre progression, mais qui nous aident à davantage nous approcher de toi. Merci pour ces personnes, Seigneur, qui au travers de notre relation, nous montrent, Seigneur, combien, Seigneur, nous devons être proches de toi. Merci pour ces personnes, Seigneur, qui ont joué un rôle très important, il fut une saison, mais qui aujourd'hui, Seigneur, doivent quitter, Seigneur, notre cercle d'amitié, Père. Et accorde-nous la grâce de choisir des personnes qui croient en nous. Accorde-nous la grâce de nous associer aux personnes qui nous valorisent, aux personnes qui nous encouragent, aux personnes qui sont de la même espèce que nous, aux personnes qui jouent un rôle très important et favorable, Seigneur, pour notre ministère. Merci, Père, pour les gens de notre famille. Nous les aimons, certes, mais Seigneur, tu nous accordes la grâce de comprendre que la plupart du temps, les gens de notre famille ne croiront pas en nous. Merci parce que tu nous délivres de l'opinion des gens. Merci parce que tu nous amènes à comprendre que l'opinion des gens n'est pas notre réalité, mais c'est ta parole qui est notre réalité. Merci pour toutes les personnes que tu mets à nos côtés et qui, de manière directe ou indirecte, Seigneur, nous aident à aller de l'avant, Père. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour l'œuvre que tu as commencé dans notre vie et que tu rendras parfaite, Seigneur. Même si nous ne comprenons pas toujours tout, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes que tu mets à nos côtés et qui nous aident à aller de l'avant. Merci, Seigneur, pour tes enfants. Merci pour chacune des personnes présentes ici et qui écoutera cet enseignement. Seigneur, je prie que tu illumines les yeux de chacun et que tu leur amènes à comprendre, Seigneur, combien la vie est courte et combien il est important, Seigneur, de s'entourer des personnes qui nous aident, qui les aidera à libérer leur potentiel en Christ, Seigneur. La vie est courte, Seigneur, et il y a encore tellement de choses à accomplir avec toi. Voilà pourquoi, Seigneur, notre destinée est tellement grande que nous ne pouvons pas nous payer le luxe, Seigneur, de marcher avec des personnes qui nous amènent nulle part. Voilà pourquoi nous te disons encore merci, Père, pour l'œuvre que tu as commencée dans nos vies et que tu rendras parfaite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous te disons merci. Que quelqu'un dise amen, amen et amen et acclame le Seigneur.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.